Averroa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 11 juillet 2022, en direct de Washington, Idrissa Seboudia. Pour commencer, les titres. Au Togo, une explosion dans le village de Marba, dans la préfecture de Tone, fait 7 morts. Au Burkina Faso, l'armée annonce que 5 civils ont été tués dans une attaque dans le nord. Au Congo-Brazzaville, peu de monde hier aux urnes pour les élections législatives et locales. Au Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de 2023, choisit un autre musulman comme colistier. En Afrique du Sud, 2 fusillades dans des bars font 19 morts pendant le week-end. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, au Japon, pour rendre hommage à Shinzo Abe, assassiné le 8 juillet. Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Oumpatine ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Togo, une explosion dans le village de Marba, dans la préfecture de Tone, frontalière avec le Burkina Faso, a fait 7 morts et 2 blessés, nous signale notre correspondant Kossi Wosu, citant un communiqué du chef d'état-major général des forces armées du Togo, le général de brigade Dadia Maganawe. Une unité de l'opération militaire Kunjoare a été dépêché sur place pour secourir les blessés. Selon le chef d'état-major des forces armées, une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cette explosion et identifier les auteurs. Cette explosion survient alors que la région est placée sous état d'urgence sécuritaire depuis le 13 juin. Elle fait suite à une attaque terroriste le 3 mai dernier qui avait fait 13 morts parmi les forces de défense à un poste avancé dans le village de Kpekpandi, près de la frontière du Burkina Faso. Il est conseillé aux habitants de la région d'éviter les déplacements nocturnes non essentiels et le respect scrupuleux de l'état d'urgence en vigueur dans la région, selon Kossi Wosu. Au Burkina Faso, pendant ce temps, 5 civils ont été tués dimanche lors d'une attaque de djihadistes présumés contre un détachement militaire dans la région du centre-nord, Eric Manera Kidza.
Dans la matinée du dimanche, des combats ont opposé les éléments du détachement militaire de Barsalogo dans la région du centre-nord et un groupe armé terroriste venu s'attaquer à l'emprise du détachement. Dans le même temps, un autre groupe de terroristes a pris pour cible des civils, a indiqué l'état-major dans un communiqué. Le bilan fait état de 5 civils, dont un enfant tué, ainsi que de 8 militaires blessés qui ont été évacués et pris en charge selon l'armée. Des opérations aériennes et terrestres ont aussitôt été engagées pour traquer les assaillants et plusieurs frappes aériennes ont été effectuées sur des groupes qui tentaient de se replier vers une base terroriste localisée à Bangmiougou, près de Barsalogo, selon l'armée qui précise que plusieurs terroristes ont été neutralisés et la base logistique a été détruite.
5 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées dans une attaque de village attribuée aux rebelles ADF samedi soir en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris dimanche de sources locales. Depuis fin novembre 2021, les armées congolaises et ougandaises mènent des opérations conjointes pour tenter de les neutraliser, ces rebelles. Au Congo-Brazzaville, peu d'électeurs se sont mobilisés pour aller choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale dans le cadre des élections législatives et locales. Quelques leaders de l'opposition avaient en effet appelé leurs partisans à ne pas se rendre aux urnes, une attitude dénoncée par le président Denis Sassou Nguesso, qui parle de partis qui s'auto-excluent de la marche démocratique du pays. Les premiers résultats du vote devraient être connus d'ici à mardi, selon le président de la Commission nationale électorale indépendante. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
C'est après avoir voté à la maison commune de Wenze que le président Sassou Nguesso a profité de réagir à l'appel au boycott lancé par certains leaders de l'opposition. Mathias Nzon, Paulin Makaya, Clément Mirassa ou Jean Itadi avaient tous demandé à leurs militants de ne pas aller voter. Pour Denis Sassou Nguesso, ces acteurs politiques s'excluent eux-mêmes de la marche démocratique du pays.
Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie et un parti politique qui s'exclut du débat démocratique, que lui reste-t-il à faire? Et c'est la seule question que je pose. Pour le reste, je pense que le processus est en marche. J'ai suivi le débat démocratique dans le pays.
Sur le terrain, la journée de vote, ce 10 juillet, a été marquée par une mobilisation des électeurs visiblement faible. Si on a pu observer une affluence dans certaines circonscriptions à fort intérêt, comme Muyonzi ou Kélé, ailleurs, nombreux ont boudé les urnes. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Nigeria, le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de février 2023, Bola Ahmed Tinubu, a annoncé dimanche avoir choisi comme colistier un autre musulman, l'ex-gouverneur de l'État de Borno, Kashim Shettima. La tradition électorale veut que les candidats présidentiels du Nord, majoritairement musulmans, choisissent un vice-président originaire du Sud, majoritairement chrétien, et vice-versa. Bola Tinubu est originaire du sud-ouest du pays. Son principal concurrent, l'ancien vice-président Atiku Abubakar du PDP, musulman originaire du Nord, a lui choisi un chrétien du Sud, Ifeani Okowa, actuel gouverneur de l'État du Delta. Week-end meurtrier en Afrique du Sud, deux fusillades dans des bars où les assaillants semblent avoir tiré au hasard sur la clientèle ont fait 19 morts dans la nuit de samedi à dimanche, selon un décompte de la police. Le point avec Rosine Mounezero.
À Soweto, près de Johannesburg, 15 jeunes gens, dont deux femmes, ont été tués lorsque plusieurs assaillants ont tiré avec des armes de gros calibre sur la foule qui s'amusait. Tandis qu'à Pietermaritzburg, dans l'est du pays, quatre personnes attablées ont été tuées par des hommes qui ont ouvert le feu indistinctement. Les victimes sont jeunes, âgées de 19 à 35 ans. Ces morts violentes sont inacceptables et inquiétantes, a dit le président Cyril Ramaphosa en présentant ses condoléances aux familles. Nous ne pouvons permettre que de violents criminels nous terrorisent de la sorte, a-t-il affirmé dans un communiqué. Le mode opératoire similaire intrigue les enquêteurs, même si les fusillades sont fréquentes en Afrique du Sud, l'un des pays les plus violents au monde. Ces attaques interviennent un an après les pires violences que le pays ait connues depuis la fin de l'apartheid, déclenchées par l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, condamné pour outrage à la justice et poursuivi pour des faits graves de corruption. En juillet 2021, ces émeutes, pillages massifs et destruction de sites industriels, principalement à Johannesburg et en pays Zoulou, avaient fait plus de 350 morts.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Japon, le parti au pouvoir et ses alliés ont obtenu une super majorité lors des élections sénatoriales, ont indiqué lundi les médias locaux. À l'issue du scrutin de dimanche, parallèlement, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est brièvement rendu ce lundi à Tokyo pour présenter personnellement ses condoléances, celles du président Joe Biden et du peuple américain au Japon, après l'assassinat le 8 juillet de l'ancien premier ministre Shinzo Abe. Précision de Jean-Roger Bion.
Le LDP et le parti Komeito devraient remporter entre 69 et 83 des 125 sièges disputés lors du scrutin de dimanche, rapporte la télévision publique NHK sur la base de sondages réalisés à la sortie des urnes. Les résultats définitifs seront connus ce lundi. L'issue de ce scrutin était largement attendue pour des élections qui se sont tenues deux jours après le meurtre de l'ancien premier ministre Shinzo Abe, membre éminent du LDP, qui a provoqué un grand émoi dans l'archipel. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est aujourd'hui à Tokyo pour présenter ses condoléances au peuple japonais après la mort de l'ancien premier ministre. L'alliance entre les États-Unis et le Japon est la pierre angulaire de la paix et de la stabilité dans l'Indo-Pacifique et elle n'a jamais été aussi forte, a déclaré le département d'État dans un communiqué. Shinzo Abe a été tué par balle vendredi alors qu'il prononçait un discours de campagne dans la ville de Nara, dans l'ouest du Japon, en vue des sénatoriales de dimanche.
Les forces russes continuaient dimanche de pilonner l'est de l'Ukraine, faisant au moins 15 morts dans une frappe qui a éventré un immeuble d'habitation à Tchachiv Ihar, selon les autorités ukrainiennes. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré hier qu'il y avait 15 noms dans la liste des morts, et malheureusement, ce n'est pas le nombre final. L'Iran a fait état ce week-end de nouvelles avancées techniques concernant l'enrichissement d'uranium, poursuivant le développement de son programme nucléaire en plein blocage des pourparlers pour relancer l'accord de 2015. Et le renforcement de la coopération entre Israël et les États-Unis contre l'Iran sera au cœur de la visite au Moyen-Orient du président américain Joe Biden, a soutenu dimanche le premier ministre israélien Yair Lapid, appelant à des sanctions contre Téhéran pour ses avancées nucléaires. La Minute Éco, Claire Morin-Gibault.
L'Afrique a besoin de 424 milliards de dollars cette année pour se remettre du choc économique provoqué par le Covid-19, a annoncé Akunwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, qui affirme que la pandémie a plongé 30 millions d'Africains dans la pauvreté extrême. Monsieur Adesina suggère de s'attaquer à la question de la dette dans son intégralité. Vous ne pouvez pas courir vers le haut d'une colline en portant un sac de sable sur votre dos, a-t-il souligné. Les start-up africaines continuent d'avoir le vent en poupe. Elles ont levé plus de 426 millions de dollars en juin 2022, selon les données de TechCabal. Sur les 36 levées de fonds, les fintech ou start-up proposant des services financiers numériques sont les plus actives, représentant 70% du total. Les start-up EnergyTech viennent en deuxième position et celles de mobilité logistique en troisième. Le marché de l'emploi aux États-Unis a créé la surprise vendredi avec des gains d'emploi bien plus importants que prévus en juin, de quoi atténuer les craintes d'une récession imminente. La reprise du marché du travail est la plus rapide et la plus solide de l'histoire de l'Amérique, s'est réjoui le président Joe Biden dans un communiqué.
Merci Claire. Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer et on connaît les affiches des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines.
Oui, de belles affiches à l'issue de la phase de groupe qui s'est achevée hier avec une victoire 4-0 du Nigeria sur le Burundi et un succès étriqué d'un but à zéro de l'Afrique du Sud face au Botswana. On aura donc à partir de mercredi le pays hôte Maroc contre Botswana et Zambie face au Sénégal. Le lendemain, Afrique du Sud, Tunisie et le choc Cameroun-Nigeria. Une finale avant l'heure. A noter que les vainqueurs de ces quatre confrontations seront automatiquement qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde prévue du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Le Maroc qui va abriter une nouvelle compétition de la CAF.
Tout à fait. Après la CAN féminine qui se dispute actuellement, le royaume chérifien a été désigné par la CAF pour organiser cette fois les éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans, qualificatifs pour les Jeux olympiques d'été. Les 8 équipes qualifiées après les phases préliminaires vont s'affronter au Maroc du 2 au 26 novembre 2023. Les deux finalistes ainsi que le troisième valideront leur ticket pour les JO qui auront lieu à Paris en 2024.
Un mot sur le mercato et cette décision forte d'Hakim Ziyech.
Le milieu offensif de Chelsea, annoncé au Milan AC, s'est séparé de son agent Mustapha Nakli. Il a annoncé à travers un communiqué. L'ancien joueur d'Ajax d'Amsterdam a précisé que le temps est venu pour lui de prendre le contrôle de sa vie professionnelle. Reste à savoir si cette décision aura un impact sur sa carrière internationale, où il est toujours espéré par le Maroc en vue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
Rugby, la Namibie remporte l'Africa Cup et se qualifie pour la Coupe du Monde 2023.
Exactement Idrissa, les Namibiens ont décroché leur qualification pour la 7e fois consécutive après avoir dominé facilement en finale le Kenya 36-0. En France l'année prochaine, ils seront dans une poule à relever avec la Nouvelle-Zélande, la France, l'Italie et l'Uruguay. Le Kenya garde tout de même une chance d'être du rendez-vous. Il devra s'imposer lors d'un tour de repêchage prévu en novembre avec le Portugal et deux autres nations encore à déterminer.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, flambée des prix des produits de première nécessité, en cause la crise provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine qui a désormais des répercussions sur la production du pain. Faute de blé et de farine en quantité suffisante, les boulangeries rationnent les détaillants. Malgré la volonté des autorités de juguler l'inflation, la baguette très prisée par les ménages de Libreville se fait de plus en plus rare dans les épiceries. Un reportage de notre correspondant dans la capitale gabonaise, Ismaël Obiangze.
C'est le calvaire pour les ménages au budget serré. Déjà touchés par la flambée des prix des produits de première nécessité, ils doivent en plus faire face à une pénurie de pain. Accusés de pratiquer la surenchère en provoquant la pénurie de farine pour faire grimper le prix du pain, les entreprises meunières ont été rappelées à l'ordre par le gouvernement. Jaber Nguébé est porte-parole des boulangers.
Donc on s'est entendu tous en signant le PV que le prix de la baguette restera à 125, vendu au comptoir de la boulangerie. Donc si le boutiquier aura besoin de ce produit, il viendra à la boulangerie où il va s'entendre avec ce même boulanger pour lui livrer à sa boutique au prix de 125.
Fofana Diallo est un restaurateur dont l'activité dépend désormais du rationnement des boulangeries.
Quand on me demande nos livreurs, ils nous font comprendre que même si c'est là-bas, là, c'est insuffisant. C'est ce qu'on nous donne en termes de farine. Donc ils ne pourra pas nous donner en quantité de pain qu'on recevait avant. Parce que quand on prend beaucoup pour une personne, le reste n'aura même pas un peu. C'est comme ça, on pense.
Et votre quantité habituelle, c'est combien?
On prenait 40. Hein, la rente de bouger est trop faible pour nous. Parce que quand il n'y a pas le pain, il n'y a pas de client. Ça nous affecte beaucoup.
Derrière cette crise du pain qui touche plusieurs villes du Gabon, les autorités invoquent les conséquences de la crise russo-ukrainienne et invitent les populations à en saisir les opportunités. Jessie Naïkoga, porte-parole de la présidence.
L'Ukraine et la Russie font partie des deux plus gros exportateurs de blé au monde, ce qui a une répercussion notamment sur le pain. Donc, sur cette crise, il y a un accompagnement de l'État, mais ça relève différentes opportunités qui reviennent aux populations d'épouser et nous, à l'État, de les amener à épouser.
D'après les statistiques de la Direction générale des douanes, les importations de produits alimentaires du Gabon ont atteint plus de 300 milliards de francs CFA en 2021. Les stocks se vident et la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur ne fait que s'accentuer. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Au Tchad, une soixantaine de jeunes de différents villages de la partie méridionale du pays envoyés dans l'extrême nord pour y être exploités comme main d'œuvre dans la zone aurifère, ont fui en petits groupes pour se retrouver à Abéché. Ils ont été acheminés à N'Djamena grâce aux personnes de bonne volonté et logés dans des salles de classe en attendant d'être transférés dans leur village d'origine, nous dit notre correspondant André Kotmadjingar.
Étienne Gabé, 39 ans, revolu, marié et père de 4 enfants, faisait partie de la première vague de jeunes du département de l'Akiru, province du Moinchari, envoyés dans l'extrême nord du Tchad et en Libye comme main d'œuvre.
Avant, on vivait avec l'arachide, haricot, mais on n'est pas pratiqué d'or. Mais à cause de l'hiver, si on laboure là, les bœufs sont venus bouffer tout. Donc à cause de ça, que on a laissé les villages et nous sommes partis là-bas pour chercher l'or. Là. Il nous a trompé, il dit que l'or, là, c'est mieux par rapport à nos cultures. Ils ont dit que si tu as la chance, là, 2 ou 3 mois, là, tu veux avoir des millions.
Mais la richesse ne sera qu'un simple mirage dans le désert. Les autres rescapés disent avoir été traités pendant des années comme des esclaves du 21e siècle.
On a fait 2 ans là-bas, mais on n'a rien trouvé. Tu es malade même, il te dit que l'argent qu'il paye, le manger, là, c'est pour lui. Tu dois travailler et rembourser.
J'ai quitté Kiabé, c'était en 2019. Arrivé là-bas au côté du bureau m'avait fait bandir par un patron comme ça. On a travaillé, mais le patron ne nous a même pas payé. C'était comme ça que j'ai quitté côté Libye pour arriver au Kouribougoudji ici. Arrivé ici au Kouribougoudji, j'ai fait 1 an et 4 mois comme ça. Et puis la guerre s'est déclenchée. Les gens nous ont torturés beaucoup. On nous a traités comme des esclaves. Et quand tu ouvres la bouche pour lui demander l'eau, seulement il va te dire que hey, la terre ne vous appartient pas. On a fait 1 mois au Kouribougoudji sans manger ni boire comme ça.
Ne pouvant plus supporter, ces jeunes ont fui à pied, parcourant plusieurs kilomètres. Beaucoup ont péri dans le désert, comme en témoigne un survivant.
Il n'y a même pas l'eau. Les gens meurent comme ça sur la route. Moi, personnellement, j'ai fait 2 jours. 3e journée, d'abord, j'ai suis arrivé à l'autre Kouribougoudji. Devant moi, j'ai vu les morts comme ça. On a couché même ensemble avec un frère comme ça. Il est de mon village. On a couché ensemble avec lui et après, là, il est mort. Moi, je ne peux pas repartir là-bas. Parce que tout ce que j'ai vu là-bas, là, même mon père qui m'a mis au monde là, il n'a pas vu ça un jour. Du moment où j'étais là-bas même, je lance souvent des vocales à mes frères là. Je dis qu'il ne faut pas laisser tromper par des gens.
Pour le président du groupe de solidarité de la sous-préfecture de Ndjibo, département de l'Akiro, William Touka de Galois, la mauvaise gestion des conflits éleveurs et agriculteurs serait à l'origine de ce phénomène et donc il faut créer des activités de substitution.
Ce phénomène a perduré et ces jeunes là sont arrivés à un point où ils ne peuvent rien.
C'est vrai, il y a des mineurs parmi eux, mais c'est des pères de famille.
Il faut que ces jeunes gens-là se reconvertissent, puisque c'est des gars, vous voyez, en majeure partie, ne sont même pas scolarisés. Pourquoi ne pas créer les petits métiers, avoir des centres de formation, pour au moins les stabiliser. Vous allez voir, il n'y a plus de bras valides dans le pays Sarakaba. C'est devenu, comme on disait quelqu'un, la ruée vers l'or.
Plus de 100 jeunes rescapés issus de la même province du Sud, envoyés dans l'extrême nord du Tchad comme main d'œuvre dans des mêmes conditions, sont attendus dans les jours qui suivent N'Djamena. André Godouma Djingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a accueilli le 9 juillet pour la première fois la Fashion Show, qui en est à sa 3e édition cette année. Cet événement réunit des actrices de mode au niveau local et de la région des Grands Lacs pour valoriser la femme africaine. Notre correspondant sur place, Zanem Netizaidi.
Pour cette 3e édition, les organisateurs ont réuni 25 mannequins venus de Goma, Bukavu et Gisenyi au Rwanda. C'est un tremplin pour qu'ils veulent se lancer dans l'univers de la mode des professionnels. Ganza Samapanza, venu de la République centrafricaine, est parmi les stylistes invités. Ses créations veulent prôner la parité et montrer la place importante de la femme dans la société africaine.
Moi, je dis toujours, la femme ne sera jamais égale à l'homme. Mais la femme a une place. La femme est une pièce maîtresse dans la vie de l'humanité. Alors, pourquoi faire du mal à une femme? Pourquoi violenter une femme? La femme, c'est celle qui donne vie. La femme, c'est... En fait, la femme, c'est la vie. Je suis très contente pour ce défilé de mots qui parle de la femme.
La fashion show est pour l'équité, l'autonomie et la valorisation de la femme et lutte contre la discrimination et les violences faites aux femmes par les biais d'un défilé des modes. Au-delà de demander le soutien des autorités, les organisateurs ont voulu montrer que la femme est au centre de tous les choix.
L'objectif de la femme fashion show, c'est la valorisation de la femme à travers la mode, c'est valoriser la femme et amener la femme à être autonome et amener la femme à vivre dans une vie où elle se sent à l'aise avec ses créations, qu'elle arrive à créer, à produire et enfin que le public aussi puisse assister en achetant ses créations.
Le mannequin et participants sont aussi venus du Rwanda, Burundi, de l'Europe, des États-Unis et de plusieurs autres villes de la RDC. Pour Jonathan Songolo, les styles qui sont exposés ont captivé son attention. Il plaide pour la multiplicité de ces genres d'événements dans la région.
Alors, il y a une collection qui m'a surtout captivé. C'est une femme qui a utilisé des bâches. Elle avait fait des vestes en bâches mélangées avec des tissus. Et le thème, c'était conservation de la nature. C'était vraiment magnifique. Et il y en a une autre qui avait une sorte, il y avait des ailes et tout ça. En fait, tout ce que j'ai retenu, c'est que les femmes sont aussi créatives que les hommes. La créativité n'a pas de genre, en fait.
La Femme Fashion Show a été créée à Bukavu et c'est la première fois qu'elle s'est tenue à Goma. Les organisateurs veulent faire une tournée dans d'autres villes de la RDC, peut-être même faire une fashion show au niveau du continent. Zalem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
En Côte d'Ivoire, le projet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, piloté par l'Agence française de développement en collaboration avec l'Agence emploi des jeunes, est une passerelle qui réduit la vulnérabilité des jeunes sans emploi. Il a permis à beaucoup de jeunes ivoiriens de se lancer dans l'entrepreneuriat, installer un petit commerce avec peu de moyens et embaucher d'autres jeunes. Notre correspondante à Abidjan, Delphine Boys.
L'agence emploi jeunes expérimente le projet TIMO dans la ville balnéaire de Grand Bassam à travers l'assainissement des plages et des gares communales. 100 jeunes, dont 72 femmes, sont impliquées dans la phase pilote qui a démarré à Grand Bassam. Jean-Louis Moulot, le maire de la ville.
Je me réjouis que ce partenariat entre la ville de Grand Bassam et le ministère de la promotion de la jeunesse a un contenu concret pour pouvoir ensemble sortir la jeunesse de la pauvreté et du sous-emploi.
Le jeune Joël Okou témoigne de l'expérience qui a changé sa vie.
On a embelli notre plage à Grand Bassam. Voyons que nous nettoyons la plage avec un revenu par mois, c'est intéressant. J'ai d'abord une boucherie. Je voudrais me lancer aussi dans le montage de photos et vidéos.
Valérie Nguesso, une autre bénéficiaire du projet TIMO, elle a investi dans la vente de poissons.
Elle m'a commencé à aller nettoyer les gares. On s'en utilisait aussi la viande. On l'a utilisé de ne pas jeter les ordures pour que les gares soient propres. Et on a fait cela pendant 6 mois. Je vous assure, aujourd'hui je ne le regrette pas. Aujourd'hui ma vie a changé. J'ai commencé à prendre du poisson. Quand j'ai vu que ça commençait à manger, j'ai pris 2 fils qui m'aident jusqu'à présent. Aujourd'hui, la j'arrive à les payer. J'arrive à prendre soin de moi-même. Et aujourd'hui, je suis au tout. Je dis merci aussi au Seigneur de l'emploi.
Jean-Claude Assi a utilisé ses économies pour se tourner vers le maraîchage.
Un projet TIMO, balayé dans les gares. Et ça fait les 6 mois que j'ai pris mon épargne pour pouvoir faire mon agriculture. Quand j'ai commencé, j'étais seul, donc je faisais de la tomate. Donc mes tomates étaient de bonne qualité et les clients venaient nombreux. Donc j'ai embauché 3 personnes pour m'aider et étendre ma plantation sur plusieurs périmètres. Et aujourd'hui, comme on a une bonne main d'œuvre, on a ajouté à la tomate du concombre, du chou et les salades. Et l'État, le CDD emploi, aujourd'hui, grâce à eux, j'arrive à m'occuper de ma famille.
L'Agence française de développement a soutenu le projet et Céline Gratatour, chargée des missions à l'AFD.
Nous sommes extrêmement contents de prolonger en fait cette aventure avec une troisième phase et plus de 80 millions d'euros qui seront dédiés à l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire.
Mamadou Touré, ministre de la Promotion et de l'Insertion des Jeunes, se réjouit de cette collaboration et donne des conseils aux jeunes.
Ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas de saut métier. Vous avez vu les témoignages des jeunes. Certains jeunes peuvent se complexer par rapport à certaines activités. Mais on a vu que les TIMO ont permis à des jeunes qui ont commencé à nettoyer des gares, à nettoyer des plages. Au bout de 6 mois, ces jeunes ont pu économiser des ressources. Et ces jeunes sont aujourd'hui des entrepreneurs qui eux-mêmes emploient d'autres jeunes.
Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique et VOA Afrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidoudia. À la mise en onde, Michel Joseph et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.